Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
C'est une quatrième émission sur Radio Présence pour suivre l'école d'oraison avec les carmes du couvent de Toulouse. Nous avons vu la semaine dernière comment prier de tout son être. Nous mettons l'accent aujourd'hui sur les difficultés de l'oraison. Bonjour Claudia Lucas.
Bonjour Isabelle Duché, bonjour à tous vos auditeurs.
Vous êtes laïque et animatrice de l'école d'oraison au couvent des Carmes et vous pratiquez l'oraison depuis de nombreuses années. Merci d'être là ce matin.
Oui, c'est avec joie.
Comment avez-vous commencé à faire oraison?
Eh bien, ça remonte à nos premières années de mariage. On était aux équipes Notre-Dame. Et l'un des points concrets d'effort des équipes Notre-Dame, c'est de faire oraison, consacrer au moins 10 minutes par jour. Parce que le père Caffarel, qui a fondé les équipes, était un fervent priant et promoteur de l'oraison. Il était persuadé que c'était une forme de prière qui convenait à tous les états de vie. Et il a voulu vraiment que les équipiers découvrent ce moment privilégié pour être en lien avec le Seigneur, pour que ça irradie sur toute leur vie, en fait. Donc, on a commencé par les équipes Notre-Dame, l'icône dans le coin prière, 10 minutes par jour, avec doigts et débats, bien sûr. Hein, c'est pas facile quand mon mari, sa vie professionnelle, moi avec la femme au foyer, les enfants, etc., le bénévolat. Mais ensuite, il a été muté plusieurs fois. On s'est retrouvés à Nîmes, près de Notre-Dame de Vie, l'institut fondé par le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus.
Et là, frère Carme.
Voilà. L'oraison est au cœur aussi de leur charisme. Donc, on a eu la chance de pouvoir participer à des retraites à Notre-Dame de Vie, participer à un groupe de prière qui se tenait. Et ça nous a vraiment fait avancer, faire de grands pas dans l'oraison. Et ensuite, muté à Lille, on s'est retrouvés pile dans le quartier où est le couvent des Carmes. Et là, commencer à fréquenter le couvent des Carmes. Donc, petit à petit, on s'est beaucoup rapprochés du Carmel comme un peu notre famille spirituelle. Et ça nous soutient énormément. Donc là, l'oraison est au cœur de leur vie. Et on vit de ça aujourd'hui.
Et l'oraison est aussi au cœur de votre vie, si je comprends bien. Alors, nous suivons cette école d'oraison pendant le carême. En quoi ce temps est-il propice à la pratique de l'oraison?
Moi, j'ai vu trois raisons. D'abord, dès le premier jour, Jésus nous a demandé de prier. Vous vous souvenez, l'évangile du mercredi des cendres. Quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui l'a dans le secret. Et Jésus ne dit pas « si tu pries », mais « quand tu pries ». Donc, il nous le demande. Et qu'est-ce qu'on fait dans l'oraison si ce n'est se retirer dans la pièce la plus retirée au fond de notre âme pour être présent à Jésus et à la Trinité Sainte qui vit là par la grâce du baptême. Donc, première raison, Jésus nous l'a demandé. Deuxième raison, c'est que l'Église nous demande, dans ce temps de carême, un temps de conversion, retour vers Dieu. C'est « revenez à moi de tout votre cœur, car je ne suis qu'amour et tendresse ». Eh bien, il me semble que c'est exactement ce que l'on fait. Chaque fois qu'on a une distraction dans l'oraison, eh bien, on fait ce retour, on quitte ce qui nous tire loin de Dieu et on se retourne vers lui. Voilà, c'est le mouvement du recueillement que l'on renouvelle des quantités de fois pendant l'oraison.
Et ça, on va en parler, justement.
Et puis, le carême nous fait monter vers la passion, vers le calvaire, où Jésus nous montre son amour jusqu'à l'extrême pour nous. Il va nous aimer jusqu'au bout. Et nous, face à cet amour, qu'est-ce qu'on va répondre? Donc, notre réponse dans l'oraison, c'est être fidèle chaque jour à ce temps de rendez-vous qu'on veut lui donner. Ce temps n'appartient qu'à lui. Voilà, donc
voilà des bonnes raisons.
Je pense.
Il n'est pas encore trop tard.
Il n'est jamais trop tard.
Alors, ces bonnes raisons soulèvent quand même trois difficultés. Oui. Voilà, il y a des difficultés à faire oraison. Quelles sont-elles?
Alors, les trois que j'ai nommées, donc, c'est d'abord la fidélité. Parce que une fois que ce choix est posé, une fois qu'on a décidé fermement de donner du temps à Dieu chaque jour, tout le reste prend sa place, petit à petit. Mais en cours d'oraison, on va avoir des distractions et on va faire expérience de la sécheresse que ça induit aussi. Donc, ces trois difficultés-là, fidélité, distraction et sécheresse, c'est les trois caractéristiques. Et puis, tout le monde y fait face.
Et tout le monde y fait face, et c'est ça qui peut être rassurant, puisque, en fait, les grands saints du Carmel ont eu aussi ces difficultés.
Oh oui. On pense tout de suite à Sainte Thérèse d'Avila, parce qu'elle, elle a eu ce charisme de... D'abord, faire l'expérience de toutes les difficultés. Ensuite, de les comprendre, savoir d'où ça vient. Et puis, de les expliquer pour encourager, pour éclairer ceux qui voulaient suivre ce chemin qu'elle avait emprunté elle-même. Donc, mais quand elle nous avoue dans le livre de sa vie que pendant plusieurs années, elle allait à l'oratoire avec, en traînant les pieds, on peut dire, hein, elle était saisie d'une tristesse en entrant dans l'oratoire, en pensant que cette heure qu'elle avait devant elle pour faire oraison. Et elle n'attendait qu'une chose pendant cette heure, c'est d'entendre le coup de l'horloge qui sonnait la fin de l'oraison. Donc là, on peut être un peu réconforté en se disant, voilà, elle est vraiment passée. Et puis, elle a compris aussi, elle dit aussi qu'elle a passé 18 ans dans ses épreuves, ses aridités, parce qu'elle n'arrivait pas à réfléchir avec son intelligence, appliquer toute son intelligence à cet acte qu'elle était en train de faire, ni arrêter son imagination. Donc, 18 ans dans cette turbulence intérieure, mais elle a fini par comprendre que les divagations de son esprit étaient indépendantes de sa volonté. Sa volonté pouvait poser cet acte de choisir d'être présent à Dieu, et puis elle laissait aller... la folle du logis, comme elle l'appelle, ou le traqué de moulin. Voilà, tout ça a continué à avoir lieu dans son oraison, mais elle savait que là n'était pas l'essentiel. En elle, l'acte, la volonté avait pris le dessus, et les deux autres facultés, l'intelligence, la mémoire, l'imagination, étaient en train de faire ce pour quoi elles sont faites. Et on ne pouvait pas les empêcher.
Ça, voilà. C'est la nature qui...
Enfin, c'est très consolant, hein, tout ça.
Oui, c'est très consolant, oui, effectivement. Alors, on va commencer, Claudia Lucas, par la fidélité, cette première difficulté. Les carmes qui ont assuré les trois premières étapes de l'école d'oraison ont tous insisté sur la régularité, et vous l'avez dit. Oui. Sur quelle certitude peut-on s'appuyer pour persévérer?
C'est très important de partir avec une ferme conviction, hein, la certitude que ce que je fais est bien fondé. Et je vois d'abord la première chose que frère Jean-Mariam nous a dit à la première séance. Nous sommes faits pour prier. Ça veut dire que Dieu nous a créés dans une face-à-face pour un dialogue. Et quand nous entrons dans ce dialogue, eh bien, nous faisons exactement ce pourquoi il nous a fait. Et ça, c'est faire en même temps exactement sa volonté. Nous avons cette chance d'avoir là... aucune question à nous poser, parce qu'il y a tellement de fois dans la vie où on a une décision à prendre, on a un acte important à poser, et on se dit, mais pourvu que je fasse la volonté de Dieu. Oui. Où est la volonté de Dieu? Et là, dans cette circonstance précise, dans l'oraison, on sait sans l'ombre d'un doute qu'on est en train de faire la volonté de Dieu. Et ça, c'est vraiment une joie.
Aussi,
vraiment une joie. Mmh. Donc, une certitude qui nous ouvre sur cette joie de savoir qu'on fait la volonté de Dieu. Mm. Après, deuxième certitude, donc dans cette création, Dieu nous invite à une relation de confiance. Mais c'est plus que la confiance. Il veut nous faire entrer dans une relation d'amitié. Et c'est ce que Sainte Thérèse d'Avila a bien compris quand elle a défini l'oraison comme un commerce intime d'amitié, hein, avec Dieu.
Et donc, on en a parlé avec le frère Jean-Benoît à la deuxième séance d'école d'oraison.
Et frère Benoît-Marie nous disait, mais une amitié, ça se cultive. On pose des actes de choix et il disait, l'amitié, c'est d'abord des rendez-vous objectifs. Donc, je choisis de fixer une heure, un jour. Enfin, l'amitié, ça vit des rencontres.
Elle s'entretient.
Oui, elle s'entretient. Donc, si je veux resserrer mes liens d'amitié avec Jésus, eh bien, je prends résolument les moyens de créer un espace, un temps pour lui et rester fidèle à ça. Mm. Donc, c'est pour ça que Thérèse d'Avila finit sa définition de l'oraison en disant, donc, un commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont nous savons qu'il nous aime.
Là, on a... C'est tout le résumé de l'oraison, là.
Exactement. Ouais. Oui, ça nous permet de voir à quel point cette amitié va se cultiver dans ces petits rendez-vous qui seront parfois très courts dans la mesure de ce qu'on peut donner, hein. Mais souvent.
Oui, hein. Souvent, c'est important.
Souvent, seul à seul. Ouais.
Donc cette relation d'amitié, est-ce qu'il y a aussi une autre raison qui peut nous motiver justement à faire oraison régulièrement, à être fidèle?
Eh bien, l'oraison, c'est qu'est-ce qu'on y fait? On tient compagnie à Jésus. Et c'est là où on se rend compte qu'il est souvent très seul. Notre présence est comme une consolation pour lui. On vient à lui que pour lui. Et il est consolé. Jésus, il est doux et humble de cœur. Donc, il est vraiment sensible à la moindre de nos attentions. Donc, et il est face à une très grande indifférence, oubli, rejet même, de tant d'âmes. Et pourtant, toutes ces âmes, il les aime infiniment. Il a voulu mourir sur la croix pour les sauver. Et c'est comme... Il disait sur Sainte Marguerite Marie à Paris le Monial, je reçois en retour que voilà, le mépris.
Oui.
Donc, Sainte Thérèse d'Avila a beaucoup médité sur Jésus dans son agonie au jardin de Gethsemane.
Oui, c'est ça, ça fait exactement penser à...
Où il était dans une solitude absolument accablante, vertigineuse. Et elle ose nous dire, il nous autorise à croire qu'il a besoin de nous. Donc, à nous, vraiment, de reconnaître que, oui, nous pouvons le consoler. Alors, soyons de ces consolateurs. Mm-hmm. Prenons la peine de passer ce temps avec lui, parce qu'on peut le réjouir, le consoler, et en même temps, ça nous donne la joie de savoir que cette amitié est en train de se construire, de se fortifier, une joie d'être vraiment accueilli par lui, comme des amis.
Et on reçoit effectivement beaucoup.
Ah oui. Oui.
Alors, un dernier mot, peut-être un dernier mot sur cette fidélité.
Alors, je pense que ça se cultive dans la régularité, évidemment. Mmh. Il y a des choix à faire. Mais je pense que c'est ce que nous disait Frère Benoît Marie aussi. Il faut essayer de repérer dans notre emploi du temps les moments qui seraient propices. Parfois, ça ne s'appelle même moment chaque jour. Je sais que pour certaines personnes, un emploi du temps qui est très chahuté, on arrive difficilement à trouver le même moment chaque jour. Mais l'idéal, c'est de créer un rythme régulier qui nous structure. Mmh. Voilà, c'est pour ça que les carmes ont une vie structurée autour de l'horizon. Leur vie est faite pour ça. Mais nous, laïcs, il faut qu'on crée notre propre structure dans la vie.
Décider de ce moment.
Décider. Essayer de trouver un lieu propice, le même, si c'est possible, la même heure, parce que ça aussi, nous sommes des créatures d'habitude. Alors, savoir que chaque jour, je vais à l'horizon à la même heure, quelque chose, ça me libère aussi. Je ne me pose plus la question.
C'est vrai.
Et la même durée aussi, ça c'est important. Bon, en ce moment, les débutants sont en train d'augmenter petit à petit cette durée, mais chacun donne chaque jour ce qu'il peut, avec les obligations auxquelles il doit faire face.
Les contraintes professionnelles, familiales.
Voilà, c'est ça.
Ouais, mais vous avez cité, Claudia Lucas, une deuxième difficulté dans l'oraison, c'est la distraction. Je me souviens de Frère Benoît Marie qui suggérait à chaque distraction de reprendre une même formule qui reconnaît l'amour infini de Dieu pour ses créatures et l'amour imparfait de celle-ci. Mais peut-être, avant de donner des conseils, vous pourriez quand même nous définir ce qu'est la distraction.
Oui, oui, oui. C'est vraiment c'est quelque chose d'inévitable et il faut comprendre, moi je trouve que c'est libérant de comprendre d'où ça vient. C'est ce que disait Frère Élie la semaine dernière, je prie avec tout mon être, mais nous sommes des êtres complexes et fragiles. Et quand notre structure, la structure de notre être, c'est d'abord la sphère en contact avec le monde extérieur, toute la sphère sensible. Ensuite, on a une sphère plus intellectuelle avec nos facultés. On a l'intelligence, la volonté, la mémoire. Et enfin, on arrive à cette sphère très intérieure, imperceptible pour nous, hein, où il y a les vertus théologales qui sont à l'œuvre, la grâce de Dieu, la grâce de notre baptême. Et le mouvement de l'horizon, ça doit nous aider à... On essaie de faire ce mouvement, se recueillir. Donc, Sainte Thérèse d'Avila, on essaie de faire entrer les abeilles dans la ruche. Donc,
et la ruche, c'est l'âme.
La ruche, c'est l'âme. C'est là où on fait son miel, quoi. Mm-hmm. Mais pour faire cela, eh bien, en quittant cette sphère extérieure, eh bien, nos sens ont été beaucoup sollicités. Donc, elles sont agitées. On vient dans l'esprit, où aussi... On brasse plein d'idées, de concepts, d'images à longueur de journée. Donc tout ça, passer par là, ensuite aller dans le domaine de l'intérieur profond, eh bien, c'est vraiment un grand défi. C'est un grand défi.
De quoi et de qui peut-être viennent ces distractions?
D'abord, Dieu nous a créés comme ça. Donc ça vient de ce que nous sommes et de notre... de nos habitudes de vie. Ça, je vais en parler aussi. Hein. Mm-hmm. Comment nos habitudes de vie peuvent vraiment favoriser le recueillement. Ça, je vais en parler. Mais il faut vraiment dire que une distraction, quand ça arrive, ça me révèle ce à quoi je suis attachée. Ça me rappelle un événement de mon passé ou une tâche que je vais accomplir, ou quelque chose qui va arriver, une peur peut-être hein, pour l'avenir. Donc, à quoi suis-je attachée? Est-ce que je suis là pour Jésus ou pour moi? Et j'aime bien ce que dit le catéchisme de l'Église catholique dans le chapitre sur la prière. Et là, c'est le numéro 2729. Une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui, en lui offrant résolument notre cœur pour qu'il le purifie. Là se situe le combat, le choix du maître à servir. On ne peut pas servir de maître. Eh on oui, a le sûr. Choix, ouais. Un choix à faire consciemment et à renouveler lorsque la distraction se présente.
Je vous propose, Claudia Lucas, de faire une pause musicale et vous allez nous dire après comment justement éviter ces distractions et faire avec pour faire oraison. Nous écoutons « Mon âme se repose » interprété par la communauté de Thésée.
Amen.
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Nous sommes de retour dans cette quatrième étape de l'école d'oraison avec les Carmes du couvent de Toulouse. Et aujourd'hui, ce n'est pas un frère qui nous accompagne, c'est Claudia Lucas, une femme laïque et grande pratiquante de l'oraison depuis le début de son mariage. Vous avez, Claudia Lucas, dans cette première partie, vous nous avez expliqué d'où venait cette première difficulté qui est la régularité. Et nous avons commencé à parler des distractions. J'aimerais bien que vous nous expliquiez maintenant comment les éviter.
Oui, c'est tout un chantier, mais il faut bien se dire que l'oraison n'est pas une parenthèse dans notre vie. Elle est liée à ce qui a précédé, à ce qui suit, donc elle est liée à nos habitudes de vie en fin de compte. Et là, on peut agir. On peut, je vois le danger des appareils connectés qui nous sollicitent en permanence. On peut choisir de les laisser de côté. On peut essayer de limiter l'usage des écrans. Essayer de créer des espaces de silence dans la journée, c'est difficile dans notre vie oui. d'aujourd'hui. Hein. Et puis, ce que disait le frère Jean-Marie, sanctuariser du temps pour l'oraison. Faire en sorte que Dieu ait du temps que pour lui. Bon, on met de l'ordre dans notre vie quelque part. Oui. Mais tout ça, petit à petit, des petits pas avec la grâce de Dieu. Mais c'est très important pour créer comme un fil conducteur de recueillement dans notre vie, pour que l'oraison prenne vraiment toute sa place.
Quand vous dites sanctuariser, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, définir le lieu, oui. le moment, le temps, etc.
Oui, c'est, oui, ça, c'est ça.
D'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'éviter ces distractions?
Oui, oui, oui. On peut aussi, la règle du Carmel dit, protège ton cœur par de saintes pensées, car la pensée sainte te gardera. Et là, on peut se plonger dans la lecture spirituelle. Le père Marie-Eugène, justement fondateur de Notre-Dame-de-Vie, insiste beaucoup sur la nécessité de lire. On peut commencer par le catéchisme, par exemple, ou des bons livres sur la doctrine, parce que, en fait, la vérité va nourrir notre foi. Et si on veut faire des actes de foi à durée d'oraison, il faut que je sache en quoi je crois. Hein, je ne peux pas dire « je crois » sans savoir. Donc, tout ce qui peut m'aider à mieux connaître les vérités révélées que l'Église nous enseigne, tout ce qui nous incite à suivre l'exemple des autres, à la vie des saints, on peut dévorer des livres sur l'oraison, tout ça, ça va nourrir notre esprit, notre foi, c'est d'un grand secours à l'oraison. D'ailleurs, les deux saintes Thérèse, grande et petite, aimaient beaucoup avoir à côté d'elles à l'oraison un livre. Donc, elle peut reprenez quelques phrases simplement pour réamorcer le recueillement. Mais si on a déjà ce livre en cours et on le garde à côté de soi, c'est un secours précieux.
Oui, ça peut être un bon support. Et puis, malgré les précautions, les distractions sont bel et bien là, malheureusement dans l'oraison. Ouais. Comment y remédier?
Alors, on prend soin de bien entrer dans l'oraison en essayant d'invoquer l'Esprit Saint comme le souffle de vie en nous. Même si on respire à fond, on pense que c'est l'Esprit Saint qui est là et qui donne ce souffle. On essaie de faire descendre la prière dans notre cœur, hein, parce que c'est là où ça se passe. Je me mets en présence de Dieu, mais en me disant à qui je vais parler et qui je suis en face de lui. Donc déjà, on crée cette entrée en matière, mais on ne maîtrise pas tout. Mmh. C'est évident, on va arriver les papillons. Donc, chaque fois, j'essaie de ramener mon attention vers Jésus. C'est un acte de foi dans l'amour, comme disait frère Benoît-Marie. Hein. Et là, Jésus est vraiment consolé par cette foi et cet amour que je renouvelle sans cesse envers lui. Bon, là, il faut aller chez les détails très pratico-pratiques.
Oui. Ah, oui,
il faut des moyens,
il faut
des astuces. Donc, si on a pris l'habitude de méditer l'évangile chaque jour, eh bien, on reprend cet évangile. Si on aime les psaumes, si on a un psaume, un verset que l'on veut mâchouiller, garder en soi, eh bien, on reprend ce verset de psaume. On peut dire simplement le nom de Jésus. On a tout dit. Et répéter très paisiblement le nom de Jésus. Ou dire, par exemple, la prière de Jésus. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur. On peut donc lire dans un livre, si on veut. Mmh. On peut regarder l'icône qu'on a placée devant soi ou un crucifix. Ou, si on a la chance d'avoir une vue sur les arbres, sur la campagne, contempler la nature, parce que c'est très apaisant, ça. Parfois, respirer profondément, s'il le faut. Et puis, vraiment, si c'est trop ardu, on revient vers la prière vocale. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a beaucoup eu recours à ce moyen-là. Quand elle sentait une grande sécheresse, là, elle reprenait le Notre Père. Et en contemplant, enfin en récitant chaque mot très lentement pour que ça prenne
que ça tout, s'imprègne.
Voilà, que ça l'imprègne. Donc, voilà, toutes ces astuces vont nous aider à évacuer ou atténuer les distractions.
Et puis, peut-être faut-il préciser que toutes ces astuces, vous les avez données, effectivement, il y a un grand panel, mais on peut avoir recours à ces astuces, à différentes astuces, à différents moments de notre vie d'oraison.
Absolument. Ouais. C'est là, tout le monde a le champ libre. Que chacun trouve l'astuce qui l'aide le plus à ce moment précis, quitte à varier, à changer selon ses besoins propres. Et nous évoluons, nous changeons, nos besoins spirituels ne sont pas les mêmes à chaque époque. Donc, vraiment, grande liberté dans
grande
ce domaine.
Grande liberté, ne pas rester figé. Oui. On va passer à la troisième difficulté de l'oraison, c'est la sécheresse. Comment la définiriez-vous?
Alors, autant, c'est normal d'avoir des distractions et d'avoir des moments, on imagine l'oraison bien comme une série de moments de recueillement,
D'aller-retour, en fait.
D'aller-retour, hein, entrecoupé de distractions. Mais c'est que quand on est recueilli, on a un secret désir qu'il se passe quelque chose. On aimerait que Dieu nous fascine, on voudrait sentir
un
quelque chose.
Un peu sensible,
oui. Mais il faut bien reconnaître que nos sens et nos facultés ne peuvent pas atteindre Dieu. Et ce qui se passe entre lui et nous est totalement imperceptible pour nous. Il est bien présent, qu'on le sentions ou non, mais nous y accédons que par la foi. La foi est le seul moyen d'atteindre Dieu. C'est saint Jean de la Croix qui le dit. Il dit que c'est l'admirable moyen qui nous permet d'atteindre Dieu, qui est notre but. Et il dit même que c'est le seul moyen proportionné pour atteindre Dieu, pour le toucher.
Il peut y avoir quand même des signes sensibles, notamment au début.
Oui, le Seigneur peut nous encourager par là. Et quand il juge bon de le faire, parce qu'il sait bien que ça, on va avoir envie de revenir si on... C'est un petit attrait, hein, il y a quelque chose sur le hameçon, hein, qui nous n'a pas. Mais il sait bien qu'on risque de s'attacher à ce qu'on a reçu, au lieu de le chercher lui-même pour ce qu'il est. Et il veut creuser en nous un grand désir de le recevoir lui tel qu'il est. Donc, il nous laisse avoir soif. Hein, mais il faut qu'il creuse cette soif en nous, sinon il ne pourra pas nous combler à la mesure de son désir à lui. Donc, le laisser faire, c'est vraiment le laisser nous préparer à ce qu'il veut nous donner, lui, ce que lui veut nous donner en son temps.
Et justement, est-ce qu'on peut trouver un intérêt à la sécheresse?
Alors, oui, moi je dirais que nous sommes très attirés par le ressenti quand même. Hein,
nous sommes des êtres sensibles.
Voilà.
Hein,
Donc, oui. Arriver à quitter cet attrait, cette espèce de sécurité que ça nous donne, c'est pas rien pour aller au plus profond, dans la foi seulement. Donc, c'est vraiment la foi à l'œuvre quand on arrive à faire ça. Donc, l'intérêt de la sécheresse, c'est vraiment de nous faire passer de l'attrait des dons à la foi, et une foi très épurée, hein, qui va être mise à rude épreuve.
Hein. Ouais. Ça purifie. Est-ce que vous pourriez quand même nous donner les différences entre la sécheresse et la distraction, Claudia Lucas?
Moi, je vois qu'il faut bien les distinguer parce qu'on a deux attitudes à adopter. Devant les distractions, on doit pas se laisser entraîner. Une distraction involontaire, bon, parfois elle va nous accaparer. Et là, on doit absolument remettre ça entre les mains du Seigneur. Mais il ne faut pas se laisser entraîner par ce qui veut nous faire sortir du recueillement. Donc la distraction, on essaie de l'atténuer, on essaie de lutter contre. Alors que face face à la sécheresse, il faut vraiment adhérer à ce que Dieu est en train de faire en nous. Il a besoin de notre purification. Nous, on en a besoin, mais lui aussi, il a besoin de nous purifier. Donc, il faut tenir bon, faut tenir bon. Et d'abord, il faut prendre patience face à ces difficultés. Patience avec nous-mêmes. Oui. Parce qu'on a tellement envie d'être tout de suite parfait dans l'amour, voilà, en lien avec Dieu. Non, patience. Dieu, il a tout son temps. Nous, on a l'impression que le temps est très court, mais lui, il a tout son temps. Donc, il est à l'œuvre, ça, c'est sûr.
Et accepter notre pauvreté.
Exactement, oui. Donc, on s'abandonne à son bon plaisir. Et peu importe ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons, ce qui se fait, c'est l'accomplissement de sa volonté à lui. Et on peut être sûr qu'il est en train de faire en nous ce que lui, il veut. Sa volonté est en train de s'accomplir. Et puis, accepter de porter la croix, puisque c'est chaque souffrance vécue avec lui et en lui est vraiment source de salut pour le monde. Donc, cette sécheresse, ces distractions, si on les vit dans cette attitude de nous unir au Christ portant sa croix, on porte beaucoup de fruits et c'est pour le salut du monde. L'oraison, ce n'est pas pour nous. On fait oraison pour le monde, pour l'Église et pour le monde.
Oui, on est des intercesseurs. En
fait. Oui. Et même sans faire une prière d'intercession, rien que notre adhésion à ce que Dieu veut, ça porte du fruit pour le monde.
Ça porte du fruit. Ouais. Sainte Thérèse, la petite Thérèse, a écrit à propos de la sécheresse dans l'oraison.
Ah oui, parce qu'elle est vraiment passée par là. Elle faisait oraison avant d'entrer au couvent. Et quand elle est arrivée, elle s'attendait à être comblée, parce qu'elle était enfin à la maison. C'était tellement important pour elle. Mais juste avant sa prise d'habit, donc elle était au couvent depuis un ou deux ans déjà, elle a fait une retraite obligée. Elle a écrit un petit billet à sa sœur Agnès pour lui dire « Rien de Jésus, rien. Sécheresse, sommeil. » Donc, dans son oraison, déjà, elle vivait dans la foi uniquement, une relation de foi avec Jésus. Il ne la comblait pas du tout sur le plan ressenti. Et son cœur avide d'affection et tout, c'était vraiment très, très dur pour elle. Et puis même un peu plus tard, quand elle écrit le manuscrit B à sa sœur Marie du Sacré-Cœur, elle dit « Ne croyez pas que je nage dans les consolations. » Oh non. Elle dit, et pour nous consoler, sans se montrer, sans se faire entendre, sans faire entendre sa voix, Jésus m'instruit dans le secret.
Ouais,
voilà son
magnifique
expérience.
Oui, c'est aussi effectivement consolant d'entendre ça.
Oui.
Est-ce que, Claudia, Lucas, vous pourriez vous seriez d'accord pour dire que les difficultés liées à l'oraison sont bénéfiques pour celui qui prie?
Ah oui. Je pense au monde dans lequel nous vivons, où on met beaucoup l'accent sur le développement de la personne. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je me sens bien? Mais l'oraison va nous décentrer de nous-mêmes, complètement. Voilà, c'est l'un des points bénéfiques, vraiment, nous décentrer de nous-mêmes. Et puis, en faisant ça, ça nous met vraiment à notre place vis-à-vis de Dieu. On découvre à quel point nous ne pouvons rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est là où on le constate. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, ça fait grandir notre confiance en lui. Et puis, ce consentement qu'on doit lui donner pour qu'il puisse agir en nous, consentir à sa volonté déjà, en nous, et puis dans tout ce qui nous arrive. Et je vois aussi quelque chose d'autre par rapport à la société, apprendre à durer. Aujourd'hui,
l'instant présent, c'est vrai.
Qui c'est qui nous apprend à durer? C'est vraiment un grand défi. Donc, on peut voir un parallèle avec la vie du couple.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
C'est vraiment une grande nécessité d'apprendre à durer dans les moments de grande émotion, où on est vraiment porté un amour qui est saisissant, et dans les moments où l'amour s'enfuit, et on est sûr de cet amour, mais l'amour n'est pas en irruption, en permanence. On apprend à durer. Et je pense que Tout le monde va rencontrer ça dans sa vie familiale, dans les relations familiales, même dans son métier,
oui.
dans sa profession. Il faut apprendre à se stabiliser, à durer. Donc, ça nous apprend la gratuité. Hein. Ce qu'on donne, on donne gratuitement, parce que Dieu nous aime gratuitement. On a tout reçu gratuitement, donc on ne peut que lui rendre gratuitement.
Voilà, en tout cas, des bienfaits. Et donc, ça permet de ne pas s'inquiéter de ces difficultés liées à l'oraison. Pour terminer, Claudia Lucas, quel point concret vous conseilleriez aux auditeurs de Radio Présence pour la semaine?
Je pense qu'il faut reprendre ces petites astuces, si les personnes en manquaient, pour atténuer les distractions, puis commencer à faire un premier pas dans la vie, regarder une habitude qu'on pourrait aménager, bien repérer dans mon emploi du temps le moment favorable. C'est vraiment rester au niveau des pâquerettes, hein, voir dans la vie toutes les circonstances et puis surtout prendre un bon livre spirituel.
Oui.
Ça, c'est pour moi, j'éprouve un grand bienfait là.
Vous auriez un exemple à nous donner, un titre à nous donner, peut-être
alors,
celui que vous lisez en ce moment.
J'ai repris en main cette semaine le petit guide pratique de l'horizon que le père Dominique Sterckx a écrit. C'est un carme de la province de Paris. Et dans quelques pages, il vous fait parcourir tout ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait. Comment régler sa vie, bien entrer dans l'horizon, lutter contre les distractions, faire face à la sécheresse. C'est très accessible et moi, ça m'a fait du bien de le relire.
Voilà une bonne suggestion. Merci beaucoup, Claudia Lucas.
Merci à vous.
Vous étiez l'invitée de Radio Présence pour cette quatrième étape de l'école d'oraison et vous nous avez parlé des distractions dans la prière et vous nous avez... évidemment rassuré, distraction, sécheresse et troisième difficulté, on a dit la régularité. Rendez-vous la semaine prochaine pour la cinquième étape.